Bonjour citoyens du monde. Bienvenue au balado Le moins pour le mieux. Ici, nous parlons du minimalisme et de sa contribution à la protection de l'environnement. Je m'appelle Coralie, j'ai 16 ans et je veux qu'après l'écoute de ce balado, vous ayez envie de changer certaines de vos habitudes de vie. Justement, dans l'épisode précédent, nous avons discuté de comment changer ses habitudes quotidiennes. Cet épisode est un peu spécial. Je fais une entrevue avec Joanne Filiatro et Jean Beauchemin. Étant donné les circonstances actuelles, ce n'était pas possible pour moi de me rendre sur place et de faire l'interview avec eux. Donc, je leur ai envoyé des questions par courriel et ils m'ont répondu en fichier audio. C'est ces réponses que vous allez entendre. J'espère que vous allez aimer ce format d'épisode. Alors, bonne écoute! Pour que les auditeurs vous connaissent un peu plus, j'aimerais que vous vous présentiez en quelques phrases.
Alors, je suis Joanne Filiatro. Moi, j'ai eu la chance, vers 8-10 ans, jusqu'à mon adolescence, de faire partie dans mon village où j'ai grandi, à Papineauville, dans l'Outaouais, d'un club 4H. 4H, c'est un groupe de jeunes environnementalistes, au fond. Puis j'ai appris à travers cette expérience-là beaucoup à m'approcher de la nature, à respecter tout ce qui est les arbres, la faune, la flore, et à découvrir aussi comment tout ça est interconnecté. Puis ça fait de moi, évidemment, quelqu'un qui est profondément sensible à toutes les questions écologiques.
Alors, mon nom est Jean Beauchemin. Je vis sur ma ferme ici depuis mon enfance. J'ai développé mon intérêt pour la nature, pour l'environnement, pour une façon de vivre, beaucoup parce que ma famille maternelle a grandi près de la communauté autochtone, la Première Nation Abénakise. Puis, au travers de nos rapports avec cette communauté-là, je me suis beaucoup sensibilisé à ces questions-là.
Comment qualifieriez-vous votre mode de vie? Minimaliste, simplicité volontaire, autosuffisance, etc.
Alors, comment on qualifierait notre mode de vie? Plutôt minimaliste et teinté de simplicité volontaire, plus que d'autosuffisance. En fait, on n'a jamais été autosuffisant. On a essayé de diversifier ce qu'on faisait pour essayer de mieux répondre à nos besoins.
Bon, c'est sûr, moi, la simplicité volontaire, ça me parle beaucoup. C'est une façon, au fond, de se dépouiller de ce qui n'est pas important ou de ce qui n'est pas essentiel, parce qu'il y a des choses importantes qui ne sont pas essentielles, de vivre avec ce qu'on a, d'essayer aussi, on fait beaucoup de recyclage, c'est-à-dire on prend un vieux truc qu'on a dans notre grange depuis plusieurs années, puis on le transforme en quelque chose de super utile pour nos besoins actuels. Ou ben on va acheter des choses usagées, par exemple, plutôt qu'acheter neuf. On va prendre usagé, quitte à faire une petite réparation, corriger un petit peu, remettre un petit peu de peinture. Et c'est une façon de vivre qui est moins coûteuse. On vit avec peu, c'est ce qui est la simplicité volontaire, et ça nous parle beaucoup.
Avez-vous toujours vécu de cette manière? A-t-elle changé au fil des années?
J'étais issu d'un milieu assez pauvre. Dans les années 70, 80, avoir 14 enfants à maison, c'était assez coûteux. Fait qu'on vivait déjà assez pauvrement, même quand j'étais enfant. Fait que c'est comme si, pour moi, ça avait toujours été comme ça. Puis c'était quelque chose dans lequel j'étais heureux. J'ai continué, même avant de connaître Joanne, la grange était déjà pleine, et bien plus que maintenant, de toutes sortes de choses pour lesquelles je me disais « Ah, ça, je pourrais faire ça avec. » Puis, alors, j'étais déjà dans cette mouvance-là, même si à ce moment-là, je ne savais pas quelle tournure ça prendrait.
Ben, moi, j'ai toujours aimé vivre, effectivement, simplement. Il y a quand même une étape, quand on était au début de notre vie de couple, Jean et moi, on avait entendu un conférencier sur la simplicité volontaire. Puis c'est peut-être là que plus consciemment, on a fait un choix dans ce sens-là. Même si on vivait déjà comme ça, il y a eu un choix plus conscient de dire « Ah ben oui, tiens, c'est ça qu'on veut. » C'est comme ça que ça s'appelle, au fond, ce qu'on vit. C'est de la simplicité volontaire. Puis bon, le fait qu'on avait 6 enfants, évidemment, peu de revenus aussi, ben ça motivait encore plus le fait de se dire, ben OK, si on veut avoir une belle qualité de vie de famille ensemble, pas être obligé justement d'aller beaucoup travailler à l'extérieur, ben d'essayer de produire ce qu'on mange, d'essayer de recycler nos trucs, d'acheter les vêtements dans les friperies et tout, fait que ça faisait qu'on avait une belle qualité de vie de famille malgré le peu de moyens financiers.
Quels sont les avantages pour vous de vivre ou consommer ainsi?
Ben, les avantages, c'est évidemment des avantages pour la planète. On a l'impression qu'on contribue à un mieux-être collectif, à la santé aussi de l'écosystème. On pense aussi que si on agit plutôt que juste parler, mais si on fait ce en quoi on croit, ben, ça a des chances de créer un mouvement ou d'en inspirer d'autres. Puis, c'est ça, de se dire, ben, il faut faire sa petite part, puis être bien. C'est aussi un sentiment d'être bien dans ce qu'on fait, de sentir un accomplissement, d'être en accord avec nos valeurs.
En voyez-vous des inconvénients?
Je pense qu'un des grands inconvénients, c'est que ça nous marginalise beaucoup par rapport à la société ambiante. Ça amène des situations parfois plus difficiles à gérer, je vais dire ça comme ça. Les gens nous voient comme des bizarres. On va nous donner des qualificatifs, une connotation comme si on était des illuminés, au fond. Des fois, ça peut être blessant. C'est des gens assez proches de nous qui peuvent avoir ces réactions-là. Faut croire assez dans l'engagement que ça représente pour la planète, pour le monde, pour la vie, puis oser la différence.
Moi, je me questionne sur nos enfants quand même qu'on a élevés dans ce contexte-là, c'est sûr. Il y avait des moments où ils disaient « Ah, ben mes amis, ils ont tous des Nintendo, puis moi, j'en ai pas. » Mais bon, je pense que ça a pu avoir un impact. Il faudrait les questionner, eux, comment ils ont vécu ça, s'adapter au fait que, justement, leurs parents sont vivent différemment. Mais pour ce qui est de moi, personnellement, je suis quelqu'un d'assez en marge déjà, vie assez retirée, fait que je peux pas dire que ça me fait souffrir et puis que je vois des inconvénients. Au contraire, pour ce positif.
Il peut être difficile de moins et mieux consommer quand la mentalité de la société n'est pas la même. Comment êtes-vous capable de résister à cette pression de consommation?
Ma réaction à la question 6, c'est de dire « ben, je m'en fous ». Parce qu'en réalité, il y a une sorte de fierté aussi à défier son temps sur des questions aussi graves, aussi fondamentales. Il y a une sorte de fierté à dire je vis ma vie selon ce que je crois profondément, puis même si ça dérange.
Ben moi je dirais qu'une fois qu'on a fait un tri dans nos besoins, c'est-à-dire avec le temps, on se rend compte que on souffre pas de ça. Tu sais, au début, peut-être c'est plus difficile parce qu'on se dit je pourrais m'acheter tel truc, c'est à mode, c'est cute. Mais une fois qu'on se dit non, j'en ai pas vraiment besoin, c'est comme si à la longue, on devient comme insensible à ça. Je veux dire, les publicités, moi, ça me pue au nez parce qu'on essaie de nous forcer, de nous vendre, de nous dire il faudrait que tu ailles ça pour être bien dans ta peau. Alors que c'est comme agressant parce que c'est pas vrai que j'ai besoin de ça. Fait qu'il y a quelque chose dans ça qui est. Cette pression de consommation-là, pour moi, c'est une agression et je suis pas du tout sensible à ça, c'est-à-dire que ça m'influence pas. Absolument pas, au contraire, ça me dégoûte parce que je me dis, mon Dieu, mais c'est insensé. C'est insensé de vouloir comme ça entrer dans notre cerveau pour nous dire que. Pour nous créer des besoins. Et pour moi, c'est une pollution aussi, pollution de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, des panneaux publicitaires, des messages publicitaires.
Vous avez récemment transitionné d'une maison à 3 étages à une mini-maison. Ce changement radical a-t-il été difficile? Quels ont été vos obstacles?
Alors, la transition, c'est un long processus avant de pouvoir quitter la grande maison. D'abord parce que on construit, on fait tout nous-mêmes. Alors, la première automne, on a coupé les arbres en forêt. Printemps suivant, on le faisait scier selon les morceaux de bois dont on avait besoin. On avait prévu en faire 2. Il y en a une deuxième qui est déjà en construction. À l'automne, on a commencé les travaux de construction, l'automne suivant, donc il y a 1 an qui s'est passé depuis les débuts. Après ça, on a tout l'hiver travaillé à l'intérieur des granges sur la structure de la mini-maison, Le printemps suivant, on a sorti la structure dehors, on a fini le deuxième étage et le toit. Après ça, à l'automne, on a fait l'isolation. Joanne a pu commencer à l'utiliser à l'hiver suivant. Donc, on est rendu à presque 2 ans, puis le début des travaux pour la mini-maison. Puis, c'était pas encore vraiment habitable. Le premier hiver, Joanne était ici. Pendant que je vous parle, il y a un renard sauvage qui passe à peu près à 40 pieds de la maison.
Ben, pour ma part, la transition a été très, très facile. C'est ce qui a été plus difficile, c'est vider la maison de toutes nos possessions, toutes les affaires qu'on avait accumulées depuis quand même, ça faisait presque 20 ans qu'on habitait là, que patrimoine familial, tout ce qu'on avait pu accumuler, se départir de ce qui serait plus utile, mettre ça dans des boîtes. Bon, on a la chance d'avoir un entrepôt quand même sur notre terrain, on a une terre, donc on a plusieurs bâtiments, on a un endroit où on peut entreposer nos trucs, donc choisir est-ce qu'on a un entrepôt et tout, ça c'était un processus quand même assez ardu, mais le fait d'emménager dans la mini-maison, non. C'est un choix pour moi qui est très assumé. Je suis vraiment bien ici dans une mini-maison. Non, moi je vois pas d'obstacle, sinon le temps qu'il fallait justement pour que ce soit prêt à habiter. En fait, pour moi, quitter la grande maison familiale est un soulagement parce que c'est difficile une fois qu'on a élevé une famille dans un espace puis qui a été habité plein de vie. De se retrouver à deux dans une maison où il y a 6 chambres à coucher, vide, parce que les enfants sont partis. Alors, le syndrome du nid vide, moi, je l'ai vécu douloureusement. Puis, de quitter la maison, pour moi, c'était renaître, c'est-à-dire recommencer une vie en disant, OK, cette partie-là de ma vie est terminée. Puis, de me réinventer une vie pour moi, pour nous, pour notre couple qu'on était devenu. Puis ça s'est fait justement facilement parce que c'était comme quitter un lieu de deuil d'une certaine façon.
Après avoir discuté avec vous de maintes fois, j'ai compris que la protection de l'environnement était l'une de vos priorités. Quelles sont les actions quotidiennes que vous faites pour venir en aide à notre planète?
Alors, qu'est-ce qu'on fait pour l'environnement au quotidien? On s'est fait des toilettes à compostage, entre autres, autant dans la mini-maison qu'il y en a une à l'extérieur aussi qu'on peut utiliser en saison, parce que ce temps-ci, là, ça commence à être moins agréable à utiliser. On a une voiture électrique quand on a à se déplacer, même sur des grandes distances, on prend le temps, puis c'est ça qui est notre véhicule au quotidien. Ensuite, la récupération, comme tous les gens font, mais on essaie de s'appliquer autant que possible pour le faire. On va rincer nos contenants, par exemple, pour améliorer la qualité de vie pour des gens qui font le tri. C'est important. On oublie souvent que ces gens-là ramassent nos rebuts. Fait que ça, on trouve ça important.
Bah, c'est sûr, ici, dans la mini-maison, la toilette sèche à compostage, effectivement, c'est quelque chose d'important. C'était ce qui me faisait peur, moi, de vivre dans une mini-maison. Puis je me disais, ouais, ça, j'ai jamais utilisé ça ben. Puis ça m'inquiétait un peu de comment j'allais m'adapter à ça. Mais finalement, écoute, une fois par semaine, je dois la vider. Ça sent les toilettes, c'est pas agréable, mais ça dure 5-10 minutes. Puis pour le reste, c'est beaucoup plus agréable à utiliser, selon moi, qu'une toilette à eau, parce que les odeurs sont beaucoup moins présentes, curieusement, sauf quand on la vidange le temps, mais le reste du temps pour l'utilisation, c'est vraiment quelque chose qui dégage pas d'odeur à cause de la ventilation qu'on installe à l'intérieur et de la sciure de bois qu'on met. Et tout ça, c'est important, là. Puis je pense, moi, que c'est quelque chose qui a beaucoup d'avenir. Ensuite, je trouve ça logique qu'on s'engage nos propres déjections. C'est-à-dire que envoyer ça dans les rivières, c'est comme se débarrasser en se disant « d'autres s'en occupent ». Puis la municipalité va s'occuper de tout, purifier ça et tout. Je trouve qu'il y a une forme de responsabilisation dans cet exercice-là qui, moi, en le vivant, quand même depuis déjà 2 ou 3 ans, je sais plus, c'est quelque chose que je suis à l'aise avec ma conscience, je suis bien là-dedans, puis je trouve que c'est une belle participation pour la planète. Bon, c'est sûr aussi qu'on utilise moins d'eau dans une mini-maison parce que, bon, les éviers sont petits, le bain est minuscule, donc tout ça aussi, on contribue.
À limiter notre consommation d'eau potable.
Puis aussi, ben là, on est en train de travailler sur une serre on veut un concept là, solaire passif, donc produire nos légumes, si possible, 4 saisons, là, en tout cas, on a le droit de rêver. Puis, ben ça, on trouve ça important parce que justement, c'est aussi l'agriculture de proximité, c'est aussi de produire ce qu'on mange. On a nos poules aussi, là, on a une poule qui nous donne un
Nos œufs.
œuf, ouais, elle nous donne un œuf par jour ou presque. Fait que ça nous permet c'est ça, de consommer notre propre production. On trouve ça trippant. Puis on fait un grand jardin l'été aussi, ça c'est important. On a congelé des légumes, c'est
En
ça,
entrepôt,
en
en
entre.
caveau, on
Ouais.
a des carottes, des pommes de terre en caveau, puis
Des courges.
des courges, effectivement, aussi. Le but de la serre, ben, on est certain qu'on pourra le faire au moins 3 saisons, mais le but ultime, c'est d'arriver à en faire 4 saisons. On travaille là-dessus.
Un de mes épisodes se porte sur le minimalisme et les vêtements. Dans une mini-maison, il est impossible d'avoir une grande quantité de vêtements. Est-ce qu'il vous arrive de vous lasser de votre garde-robe? Si oui, comment y remédiez-vous?
En réalité, comme n'importe qui, on a du linge pour la saison froide, puis du linge pour la saison chaude. Ça représente à peu près chacun, bon, on va dire, deux sacs à dos, bien remplis, mettons, chacun. Puis, ça s'entrepose bien facilement. Fait que on a mis ça dans l'entrepôt. Puis, au changement des saisons, on va chercher la garde-robe qui s'impose, mais c'est pas plus compliqué que ça.
Ouais, puis pour ma part, ben moi j'aime bien les vêtements. Alors j'en ai plus que 2 sacs à dos, pas mal. Mais à cause du fait qu'on a l'entrepôt, effectivement, ça me permet de garder des vêtements que j'utilise peu, mais dans certaines circonstances, puis de pas me priver, parce que ça fait partie aussi du concept de la simplicité volontaire, c'est qu'on se prive de choses qui nous semblent justement secondaires, puis pas importantes à notre bonheur. Par contre, les choses qui nous plaisent ou qui ajoutent du plaisir dans notre vie, on s'en prive pas. Et ça, c'est important parce que sinon, ce serait, je sais pas, c'est
Bon, c'est pas une,
mortifère,
c'est
là.
pas une, moi, c'est ça, c'est pas une vie de privation. C'est de choisir qu'est-ce qui nous semble vraiment important. Parfois, sur certaines questions, on va en discuter, Joanne et moi, pour dire, bon, ça, est-ce que, puis si on arrive à la conclusion que oui, ça, il nous semble que ça, on serait plus heureux, ben, on y va.
Moi, comme exemple, on s'est jamais privé, par exemple, quand on a voulu faire un voyage culturel ou quelque chose qui allait apporter soit à nous comme couple ou à notre famille un plus dans notre vie, une expérience, on s'en est pas privé parce que pour nous, c'est important. Alors, c'est pas de se priver de tout, c'est de choisir entre toutes les possibilités de plaisir ou de bien-être ou de choisir ce qui nous semble fondamental est vraiment utile et bienfaisant et laisser tomber le reste.
Quel conseil donneriez-vous à une personne qui essaie de se départir de certaines de ses possessions?
Moi, je dirais, il n'y a pas de réponse. En tout cas, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui, pour moi, est important, contribue à me faire sentir bien, à être heureux? Parce que le but de l'exercice aussi est de laisser à soi-même et aux autres le sentiment que c'est quelque chose d'heureux. Fait que si on se départit de tout en se disant, ah, il faut que je me mortifie, ben, c'est pas comme ça. C'est pas ça qui rend heureux. On a vu dans l'histoire que ceux qui ont essayé ça se sont cassés les dents. Et quand c'est pas celle des autres, c'est comme ça qu'on essaie de voir au quotidien. C'est comme on disait tantôt, on s'en parle parfois sur telle ou telle chose, est-ce qu'on devrait garder ou ne pas garder. Puis c'est comme ça qu'on fait nos choix.
Puis un conseil à donner à quelqu'un qui veut vivre dans ce sens-là, ben ce serait d'abord, moi je pense que nos possessions, c'est un peu comme une sorte de compensation souvent, ou tu sais, des fois un vide intérieur, ben je m'achète un truc, ça me fait du bien, mais moi je pense qu'il faut travailler parallèlement si on veut en arriver à vivre plus simplement, à construire notre intérieur, une vie intérieure, une vie spirituelle, parce que quand dedans, c'est tout plein, c'est rempli d'amour, de paix, ben les choses matérielles, sincèrement, ça devient tellement accessoire qu'on s'en passe très bien ou on s'en passe mieux. Puis, ben c'est ça, c'est un travail qui se fait d'abord à l'intérieur de soi.
Finalement, je tiens à vous remercier pour votre contribution à mon projet. Vous pouvez faire une mention spéciale à quelque chose qui vous tient à cœur.
En accord avec ce dont on a parlé tout au long de l'entrevue, Joanne et moi, avec la Corporation des ouvriers de paix, on s'est dit peut-être que ce serait pertinent de lancer un projet où on permettrait à des gens de venir voir comment on vit et les valeurs qu'on porte là-dedans.
Ouais, en fait, c'est un petit peu plus structuré que ça, là. Ben, dans le sens que oui, mais c'est surtout, au fond, le projet s'appelle La Scola. Le but est d'en faire une école de vie, c'est-à-dire que les gens puissent passer une semaine ici et que ce soit donné, au fond, ça va être sous forme d'atelier, de forum, de discussion, ça va être en présentiel, on n'est pas en ligne, vraiment en personne, puis aussi à travers une vie de groupe, de communauté ou de gang, de vivre une expérience pendant une semaine où justement on découvre toutes sortes de choses liées au minimalisme, à la permaculture, à la vie spirituelle. Donc de s'outiller, je dirais, pour ou au moins de se donner le goût, de se rendre compte que c'est possible de vivre de cette façon-là, puis de s'encourager mutuellement à le faire aussi. C'est un peu ça le but de cette scola. C'est vraiment d'allumer comme un feu pour que ça se propage, pour que des gens, des jeunes surtout qu'on vise, puissent goûter ça, puis avoir le goût de faire la même chose une fois rendus chez eux.
Alors, ceci conclut cet épisode. J'aimerais faire une mention spéciale aux interviewés de cet épisode. Leur contribution pour mon projet est énormément appréciée. Ce sont des personnes inspirantes qui m'ont beaucoup marquée. Alors, merci de m'avoir écouté. Donnez-vous un compliment et à la prochaine, citoyens du monde.